Vous êtes sur RTL. Thomas Soto,
RTL Soir.
Ils sortent un manuel de curiosité générale chez Fayard. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il revenait à la maison. Sidonie Bonnec et Thomas Hugues sont les invités d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue chez vous, à tous les deux.
Bonsoir Thomas.
C'est quoi être curieux? Une définition comme ça, Sidonie.
C'est se passionner pour tout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Ouais.
Ne pas se donner de limites. On peut même être indiscret quand on est curieux.
On est curieux ou on le devient?
Ah, je pense qu'on le devient. Moi, c'est vraiment... ça a été beaucoup lié au métier de journaliste. C'est un métier de curieux. C'est aussi l'ouverture aux autres.
Ouais.
Pour moi, c'est ça la curiosité. C'est-à-dire se dire, je vais vers les autres, même les gens qui sont différents, qui ne pensent pas comme moi, et j'essaye de les comprendre. Et...
Moi, avec vous, par exemple, Thomas Hugues.
Ah bah oui, ça a été fou. Qu'est-ce que ça a été compliqué ces 6 saisons, on peut le dire.
Ah, c'est sûr. Sidonie, on dit à nos enfants, soyez curieux de tout, et on leur dit aussi, la curiosité est un vilain défaut. Alors, comment leur expliquer où mettre la limite? Parce que Thomas disait, on peut être indiscret aussi.
Alors, la limite, c'est de ne pas fouiller dans les tiroirs de maman. C'est un message que je passe.
C'est un message personnel.
Les enfants, non, mais arrêtez de fouiller.
Plus tu vas grandir, plus elle piquera tes puces. Tes écharpes, enfin, ça va continuer.
T'as raison. Je crois qu'il faut donner aucune limite à nos enfants, mais quand ils posent des questions indiscrètes ou des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre tout de suite, si c'est par exemple le sexe et qu'ils sont vraiment trop jeunes, par exemple, ou la politique, ou j'en sais rien, eh bien, il faut leur dire
c'est drôle,
je te répondrai
sexe
un peu
politique.
Plus tard. Oui,
c'est
très bizarre.
C'est deux trucs qui peuvent effrayer les enfants, le sexe et la politique.
C'est fou, ça. Le problème de la curiosité, c'est qu'elle se glisse partout, elle peut devenir envahissante, c'est une quête sans fin. Du coup, comment vous avez organisé ce livre pour qu'on ne se noie pas dans un océan de curiosité?
Le plan, les amis.
On s'est d'abord dit qu'on avait envie de faire un livre, et puis ensuite, chacun de notre côté, on a fait une liste des bonnes histoires, c'est-à-dire celles qu'on racontait le soir en rentrant aux copains, à la famille, etc. Et donc, on a mis nos deux listes en commun, et on avait 400-450 histoires à raconter, on en a choisi 250.
On n'a jamais réussi à se disputer.
Sidonie, est-ce que vous êtes acmophobe ?
Acmophobe ?
La peur des piqûres.
Oui, alors, tout à fait, je suis acmophobe. Ouais. Je déteste ça, mais heureusement... Il existe des piqûres indolores, des aiguilles indolores.
Même si on rêve de l'éclater contre un mur, notre amie la femelle moustique, on lui doit beaucoup et on l'apprend ça dans le livre.
Oui, et c'est pas grâce à son dard, c'est sa trompe. Bon, c'est la même chose, mais en fait ça s'appelle une trompe. Et ça permet en effet de pouvoir entrer dans la peau. Vous voyez, au lieu que ce soit un tube de même diamètre tout le long et donc qui fait mal, c'est à la pression que vous avez mal en fait lors d'une piqûre. Eh bien, on a imité pour la chirurgie ce dard, cette trompe de la moustique femelle qui permet d'entrer sans faire mal. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà c'est très fin, donc il n'y a pas la pression. Et on imagine même sortir bientôt une fameuse aiguille double qui reproduirait ce que fait la moustique femelle qui injecte en fait une sorte de... Oui, vous ne pouvez même plus poser de questions.
Non, mais c'est ça qui est formidable parce qu'on pose une question et hop, et c'est comme ça dans le livre, on apprend des choses et on part sur la trompe de la femelle.
Mais Thomas, moi j'ai vécu ça pendant 6 saisons. Hein. Tu dis, t'en la perche, elle la garde.
Bref,
ça s'appelle le biomimétisme.
Ça permet d'engourdir et de piquer en même temps. J'ai fini mon explication.
Sinon, on va couper le micro de Sidonie parce qu'on va passer la journée sur le moustique. Thomas, est-ce que vous, comme la plupart des garçons, vous êtes hypochondriaque?
Non, pas vraiment.
Alors parlez-nous de monsieur Émile Coué de la Châtaigneraie.
Ah, génial, français d'ailleurs.
Ça aussi, c'est dans le livre.
Donc, la méthode Coué, c'est l'autosuggestion. Et donc, c'est un Français qui est pharmacien, qui espérait pouvoir faire des études un peu plus longues, mais il devient pharmacien. Et puis, dans sa pharmacie, il se rend compte qu'il fait du bien aux gens en leur parlant, en leur donnant des conseils, en les rassurant. Et souvent, les clients reviennent en disant « Ah, mais je vais beaucoup mieux grâce à vous !» Et en fait, ils ont juste eu un petit cachet d'aspirine. Et donc, il commence à théoriser ça, il va voir des spécialistes de l'hypnose, il se dit « Non, l'hypnose, c'est pas exactement ce que je veux faire. » Et il crée vraiment une méthode, la méthode quoi. Il deviendra très très célèbre aux États-Unis, plus célèbre aux États-Unis qu'en France, d'ailleurs.
Ouais. Et il va soigner, on apprend dans le livre, le rhumatisme du roi des Belges à l'époque, Albert Ier. Il résout le problème du bégaiement.
Du futur roi d'Angleterre.
Georges VI. Sidonie, puisque vous êtes curieuse, quelle est la question que vous n'avez jamais osé poser à votre voisin Thomas Hugues?
Oh là, ah oui Thomas, quelle est ta plus grande honte au travail?
Ma plus grande
honte? Vous ne devez pas répondre, c'est toi Sidonie.
Au travail.
Merci Thomas.
C'est là
Thomas.
Que je l'ai trop faite à l'antenne. Écoute, je crois que c'est un grand moment de solitude avec Richard Gere à l'époque où je présentais les journaux sur TF1.
On vous a confondu?
Mais non, ça aurait été bien ça. Et ça a dû vous arriver aussi Thomas. C'est un artiste qui ne veut pas en fait participer.
Ah oui, quand il joue pas le jeu.
Et donc il répondait yes or no. Et donc là tu sors les rames.
Puis les minutes sont très longues.
Ils
vont faire 5-6 minutes.
J'avais posé une question à laquelle il n'avait pas envie de répondre en début d'interview et puis ça avait mal tourné.
Bon, et puisque vous parlez cinéma, ça tombe bien. Les salles sont fermées en ce moment, mais vous nous emmenez quand même au ciné lors de la première séance. Et là, vous nous expliquez que le cinéma, écoutez bien, doit beaucoup à la machine à coudre.
Oui, exactement. En fait, c'est
exactement. Excusez-moi, mais le lien n'est pas complètement
évident. Oui, ça.
C'est en fait c'est Antoine Lumière, le père des frères Lumière, qui les encourage à adapter le kinétoscope d'Edison qui permettait de projeter des petites images. Il leur dit voilà, vous allez pouvoir filmer avec cet appareil. Il faut trouver une solution pour filmer et projeter les images. Allez bosser les garçons. Et en fait, ils vont en effet s'inspirer de la machine à coudre et de l'effet rotatif de cette machine à coudre qui permet. Je rentre pas dans les détails, bien sûr.
Non, s'il vous plaît.
De projeter.
Mais c'est le moustique d'abord.
Exactement. 10 petits films merveilleux ce 28 décembre 1895 que vous pouvez voir en ce moment même, d'ailleurs, sur le site de l'Institut Lumière.
Et le premier
film du cinéma. Il faut imaginer la réaction des premiers spectateurs qui sortent en disant il faut rentrer, aller voir, aller voir ce qui se passe.
Ils étaient 33 les premiers.
Mais oui, les 33. Et d'ailleurs, le premier film, c'est pas l'entrée en gare de la Ciotat comme on le croit souvent, c'est la sortie des usines Lumière. Et ils ont filmé les frères Lumière, la sortie de leurs usines. Il y a 4 ou 5 films comme ça, ils duraient tous un peu moins d'une minute parce que c'était la taille de la bobine, tout simplement.
Ah, c'est pour ça que ça durait. Le premier beat du cinéma, je disais, c'est pour l'homme qui louait la salle aux frères Lumière parce que, en fait, ce que vous racontez également dans ce manuel de curiosité générale, c'est qu'on lui a proposé soit un loyer forfaitaire, soit d'être payé en fonction du nombre de spectateurs. Il a choisi le loyer forfaitaire alors que
de jour en jour, évidemment, les spectateurs ont doublé, triplé, ils étaient des milliers au bout de quelques semaines.
Je ne pensais pas que vous allez en sortir comme ça. Quelle est, vous, Thomas, la question que vous aimeriez poser à Sidonie, que vous n'avez jamais osé lui poser ? Question curieuse.
Question curieuse à Sidonie. Qu'est-ce que je pourrais lui demander ?
Mais c'est tout de moi, je crois.
Non, mais oui, je ne peux pas te poser une vraie question curieuse à laquelle tu ne voudrais pas répondre, quoi, tu vois ?
Ah,
non,
j'ai ça, pas de... il la protège.
Je ne sais pas ma plus grande qualité, quelque chose comme ça.
Si vous la trouvez avant la fin, n'hésitez pas.
Oui, je la trouve.
Sidonie, vous êtes fille de footballeur. Hein.
Oui.
Yannick Bonnec, qui a joué notamment à Lorient, à Laval, à Reims, à Nîmes, à Brest. Est-ce que c'est lui qui vous a demandé d'enquêter pour ce livre sur la taille des buts ?
Non, pas du tout. C'est Thomas Huc qui a insisté pour qu'on parle de la taille des buts dans ce livre. Et comme
qui se souvient de la taille des buts par cœur ? Louis Baudin, vous pouvez participer.
7,32 sur 2,44.
Waouh !
Ouais, c'est ça. Bon, t'as révisé.
8 yards, 8 pieds. Bah oui, je connais mon livre, j'ai lu.
Mais pourquoi 7,32 sur 2,40 ? Je connais mon livre, je l'ai lu, vient-elle de dire. J'espère que vous l'avez écrit quand même.
Parce que c'est effectivement 8 yards, 8 pieds. Donc c'est les Anglais, c'est des aristocrates anglais qui ont codifié le football. Le football, c'est l'héritier de la soule dans le sud-ouest français. Enfin, il y avait des jeux de ballon dans tous les pays, dans tous les villages. Mais il y a des aristocrates anglais qui codifient le jeu et qui décident que il faut un terrain qui fait quelle taille, il faut un but qui fait telle taille. Et d'ailleurs, il y a une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui s'appelle The English Game, qui doit être en 7 ou 8 épisodes, qui est magnifique, qui raconte cette histoire-là, et qui raconte les premiers ouvriers qui ont créé des équipes et qui ont gagné le championnat contre les aristocrates.
On voyage à la fois dans les matières différentes et dans le temps dans ce bouquin. Aujourd'hui, Thomas, vous êtes sur Bismart.
Oui.
Sidonie, vous êtes sur France Bleu avec une émission qui s'appelle Minute Papillon. Et sur France 2, vous co-animez Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine. Vous n'êtes pas trop jaloux d'Olivier Mine, Thomas, ça va ?
Mais il me manque, Thomas Hugues.
Ouais. Ouais, c'est gentil.
Et justement, vous travaillez ensemble,
de radio
ou pas ?
Et de télé.
On adorerait retravailler ensemble, évidemment.
Ouais. On a très envie de travailler ensemble.
C'est assez rare, les uns et les autres, Louis... on connaît tous ça, c'est assez rare finalement d'avoir des duos qui fonctionnent dans la durée. Quand on réussit à créer un duo d'antenne avec cette complicité-là, on est comme frères et sœurs, et donc c'est vrai que...
Vous n'êtes jamais engueulé, vous n'êtes jamais fait la gueule ?
Non.
On a tout essayé pourtant.
C'est vrai ?
Ouais. Merci de nous réunir d'ailleurs ce soir.
Alors moi j'ai une question curieuse, ma curiosité à moi, Thomas, est-ce que vous êtes vraiment tatoué sur les fesses ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est pour ça que je ne voulais pas poser de questions perso.
Les journalistes écrivent n'importe quoi.
À Sidonie, parce que la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble pour parler du manuel de curiosité générale, je me suis retrouvé à raconter qu'effectivement j'ai un tatouage drôlement placé. Donc
c'est vrai.
Oui, c'est vrai, bien sûr.
Et c'est quoi ?
Je ne dis que la vérité, moi.
C'est vrai ?
Non, je voulais raconter l'histoire, Thomas.
C'est végétal.
C'est le fruit du chêne.
Non, il m'a raconté.
C'est le fruit du chêne.
Le fruit du chêne, qu'on appelle donc le gland. Et voilà, je vous félicite. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous voir. Votre manuel de curiosité générale permet de se coucher moins bête et de briller pendant le réveillon de Noël, même à 6. Il est publié chez Fayard. On parlait du foot. Il paraît que moi, j'ai appris plein de trucs. Michel Hidalgo qui a failli te enlever en 78.
Juste avant la Coupe du Monde.
C'est formidable, vraiment. Moi, je vais l'offrir.
Merci Thomas.
Merci
à tous.
C'est publié chez Fayard et revenez nous voir bientôt, j'espère. La culture de l'actu dans un instant. Julia Molcou prend le métro ce soir. Ça, c'est un événement.
RTL Soir.